Donc, Philippiens chapitre 2, versets 1 à 10, j'ai parti un peu cet enregistrement un peu tard, je viens de lire versets 1 à 11. Là, j'ai pensé, je vais l'enregistrer, comme ça, j'ai au moins, bon, par exemple, ceux qui n'ont pas pu se joindre et qui veulent, donc, pourront suivre. Donc, il commence en disant, sinon qu'il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde. Ce qui est encourageant, la manière qu'il part, c'est que s'il y a quelque consolation à Christ, bien sûr, il y en a beaucoup. S'il y a quelque soulagement dans la charité, bien sûr, il y en a beaucoup. Mais ce qui est encourageant, c'est que peu importe à quel point on est rendu, il y a cause de pouvoir grandir. Dans Ésaïe, Dieu dit, il n'éteint pas le lumignon infime. Ce n'est pas Dieu qui met fin aux toutes possibilités. Avec Dieu, dès qu'il y a une possibilité, il va la faire grandir. Il va travailler dans le cœur. Et donc, ça, c'est ce qui est encourageant, c'est qu'il n'y a jamais lieu à abandonner. Il n'y a jamais lieu à être trop découragé pour dire, ah non, c'est trop, le trop, je suis dans un trou trop loin, trop noir, je suis dans un trou trop profond. Pour ceux d'entre nous qui avons accepté Christ, donc, eh bien, c'est certain qu'il y a quelques consolations à Christ. C'est certain qu'il y a quelques soulagements dans la charité. C'est certain qu'il y a quelques unions d'esprit. Le Saint-Esprit est donné à chaque croyant. Eh bien, il y a un minimum de c'est certain qu'il est là. Et donc, il y a un minimum d'union par le fait même qu'il est là. Donc, il y aura toujours cause à être encouragé, peu importe à quel point les circonstances peuvent être difficiles, à quel point on peut être affaibli, à quel point on peut être tiraillé par toutes sortes de luttes ou toutes sortes d'oppressions. Il n'y a jamais lieu à se dire c'est trop loin, trop noir, trop lourd, trop je suis pas capable. C'est faux. C'est un mensonge du diable de penser qu'il y a trop de découragement. Ça, c'est ce qui est encourageant. Il y a toujours lieu, donc, à avancer. Et la manière d'avancer, c'est quoi? Ben, c'est pas, justement, de devenir introspectif, puis de commencer à être centré sur soi-même. Comme il dit, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Eh bien, automatiquement, l'amour, c'est de penser aux besoins. On aime Dieu de tout notre cœur. On aime notre prochain comme soi-même. On regarde à l'extérieur. On regarde aux besoins. Et ça, c'était la passion de Paul. Paul priait pour cela. Paul allait se réjouir quand les gens, ceux qu'il à qui il écrivait, l'église de Philippe, pouvaient faire cela. Il y a une joie. Et ça, c'est ce qui est encourageant, c'est que quand Dieu nous aide à penser à autrui, puis commencer à regarder au-delà de nous, c'est certain que ça va amener de la joie. C'est certain que ça va être une cause de réjouissance. Il y a une sorte de race humaine, c'est tous les descendants d'Adam. Mais il y a aussi une seule source et une seule unité chrétienne. On est une nouvelle créature en Jésus-Christ. Eh bien, alors, il y a lieu d'avoir un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Il y a quelque chose qui nous unit. Et comme Jésus-Christ a dit, il y a quelque chose de spécial dans la famille, comme il dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Il y a un amour spécial entre nous qui avons connu Jésus-Christ. Et donc il y a un même sentiment, on a le même fondement, un même amour, une même âme, une même pensée. Il y a quelque chose qui peut nous unir justement. Et ce qui va briser cette unité et cet amour, c'est justement, ne faites rien par esprit de parti. De parti, c'est une volonté qui est singulière, qui est une volonté qui est un peu personnelle plutôt que pour le groupe. Il est par esprit de parti ou par vaine gloire. La vaine gloire, c'est quand on veut être quelqu'un de particulier. Automatiquement, c'est un peu, je pense, à dans une piscine. Si on essaye de se lever, ben, on a besoin d'appui. Bah, l'eau, on a de la misère à s'appuyer dessus, donc on va chercher à s'appuyer sur d'autres nageurs autour de nous. Bah, par le fait même que nous, on veut s'élever, on en abaisse d'autres. Et ça, c'est ce que fait le désir d'avoir une vaine gloire. Automatiquement, on en abaisse d'autres. Et bien sûr, ça ne va pas encourager, ça va pas tendre, ça va pas encourager, ça va pas bâtir un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Donc justement, au lieu de faire quelque chose par esprit de parti ou par vaine gloire, il dit, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Maintenant, il dit bien, l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est certain que Dieu nous a fait tous égaux, au sens de, on est chacun sa créature. Non seulement on est sa créature au sens général, Dieu nous a créés physiquement, on est sa créature. Il y a 7 milliards de personnes dans ce monde à l'image de Dieu, et Dieu les aime, Dieu nous aime tous également. C'est pour ça qu'il commande, aimez-vous, aime ton prochain comme toi-même. On s'aime naturellement, on devrait aimer autant notre voisin parce que Dieu nous aime autant. Et pour tous ceux qui sont parents, qui ont plusieurs enfants, peut-être ça peut aider à comprendre parce que moi j'en ai 5, mon épouse et moi on en a 5, ça ne nous vient pas à l'esprit d'en aimer un plus que l'autre. Ils sont tous les 5, les nôtres. Et alors on les aime également. Et Dieu, pour lui, il a 7 milliards d'enfants, entre guillemets, qu'il a créés à son image. Alors il aime les 7 milliards également. Et il veut que les 7 milliards s'aiment entre eux également. Donc, ça, c'est. Mais en tant que créature nouvelle, maintenant, Jésus-Christ, la même chose. Nous sommes tous co-héritiers de Christ. Dieu nous a tous sauvés avec autant d'amour. Et Dieu, donc, il veut qu'on aime son prochain comme soi-même. Mais là, il dit, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Pourquoi est-ce qu'on doit regarder les autres comme étant au-dessus? C'est parce que, naturellement, à cause de nos cœurs tortueux et méchants, naturels, à cause qu'on est né dans le péché, le moule des parents sont pécheurs depuis qu'on remonte jusqu'à Adam et Ève, naturellement, on est gonflé. Naturellement, on est centré sur soi. Et justement, pour un peu contrer la tendance naturelle d'être centré sur soi, bah, il dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ça va un peu comme être des lunettes correcteurs. Si notre vision est faussée, on a besoin d'exagérer quelque chose pour le ramener. Alors, moi, quand je donne mes lunettes à un de mes enfants qui n'a pas besoin de lunettes, là, soudainement, il voit tout croche. Alors, si on serait parfait et qu'on. Bien sûr, Paul ne dirait pas de regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes, parce que pas besoin de cette corrective. Mais là, puisqu'on a naturellement un cœur qui est enflé, ben, on a besoin de vraiment. On a vraiment besoin de avoir cette. Attendez, excusez-moi. Ok. J'ai un ordinateur qui veut sans cesse savoir qu'il y a quelqu'un qui l'utilise, autrement ça va. Alors, régulièrement, il faut que je montre que je suis toujours là. Donc, là. C'est pour ça qu'il dit comme étant au-dessus de nous-mêmes, parce que naturellement, on a tendance à être trop la tête enflée, trop centré sur soi-même. Et d'ailleurs, on va le voir dans le texte, parce qu'il dit, ne faites que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère, et là il y a un mot ici, aussi ceux des autres. Donc, s'il n'y avait pas le aussi, là on pourrait dire, ah, on doit considérer uniquement les intérêts des autres. Non, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi. Donc, avec le aussi, on pourrait comprendre aussi, donc il dit que chacun de vous, au lieu de considérer uniquement ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc, c'est compris que, bien sûr, Dieu ne se contredit pas. Quand il dit que chacun, aimez-vous, aime ton prochain comme toi-même. On s'aime naturellement, ça ne veut pas dire qu'on doit aimer son prochain au détriment de soi-même. Naturellement, quand on a soif, on va voir. Quand naturellement, quand on a faim, on va chercher à avoir de la nourriture. Quand on se blesse, naturellement, on veut en prendre soin. Alors, il n'est pas, Dieu ne nous commande pas d'aimer son prochain et cesser de s'aimer soi-même. On arrête de boire, on arrête de manger, on arrête de prendre soin de soi-même, on va juste le faire pour les autres. Non, ce n'est pas ce que Dieu commande. Alors c'est la même chose ici, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et donc, mais avec la même, justement, avec la même intensité. Nous, quand on a soif, bah, ce n'est pas avec beaucoup d'hésitation, hein, on va trouver de l'eau. Bah, qu'on ait la même intensité, quelqu'un a soif, ce n'est pas comme, OK, quand j'aurai le temps, je vais pouvoir... Non, c'est, hey, voyons-y autant que si nous, on avait soif. Donc, de vraiment les considérer et très sérieusement, au même point que les nôtres. Et c'est pour ça, donc, qu'il dit là, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, parce qu'on a besoin de se concentrer à considérer les intérêts des autres, et l'humilité va nous faire reprendre notre place normale. L'humilité, c'est pas comme, oh, je suis pourri, je suis pas bon, je suis capable de rien faire, je vais rien faire, je vais me cacher dans un coin, et puis ça, c'est de la fausse humilité. Mais l'humilité, c'est dire qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour servir, pour aimer. J'apprécie tout ce que Dieu m'a donné. Psaume 139, je suis une créature merveilleuse, c'est incroyable comment Dieu m'a créé, mais il a créé le voisin de la même merveille. D'apprécier toutes les bonnes choses que Dieu nous donne et d'apprécier aussi que le voisin puisse les avoir aussi. Donc, c'est pas, l'humilité n'est pas en soi la dénigration de soi-même au sens de se cacher dans un coin puis de penser que personne ne devrait nous voir jamais parce qu'on est tellement pourri. Ça, c'est de la fausse humilité. Mais d'apprécier qu'est-ce que Dieu nous a donné puis de pouvoir apprécier la vie et les bonnes choses, mais considérer les responsabilités. Ensuite, on considère les intérêts des autres également. Et ça, c'est la pensée qui était en Jésus-Christ. C'est la manière de penser de Jésus-Christ. Et c'est justement Jésus-Christ qui va être le prototype parfait, absolu de cette manière de raisonner auquel Paul nous commande. Celui de ne jamais être trop découragé, de considérer qu'il y a toujours lieu à pouvoir avoir un même sentiment, un même amour, et puis de ne pas être égoïste dans notre manière de réfléchir. Si on pense à Jésus-Christ, Jésus-Christ, il n'y avait pas de trou plus profond que lui. D'être condamné injustement à crucifixion, être haï, rejeté par les siens, par sa nation, d'être abandonné par ses disciples, ceux qui avaient vraiment cru en lui, il n'y avait pas de trou plus noir. Mais il y avait toujours quelques consolations à Christ, entre guillemets. Il y avait toujours quelques soulagements dans l'amour. Il n'y avait pas lieu à être découragé. Il est allé donc à l'avant en considérant quoi? Non seulement ses intérêts, mais les intérêts des autres. Et c'est justement cette manière de penser justement que Jésus-Christ, il a fait son sacrifice. Mais son sacrifice n'était pas, comme on peut le voir, complètement la mort ultime et totale et permanente. Okay? Oui, c'était la mort ultime. Oui, c'était la mort totale. Mais elle n'était pas permanente. Il avait aussi son intérêt. Et ça nous le dit aussi dans Hébreux 12, pour la joie qui lui était réservée. Dans Hébreux 12, il dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, celui qui commence, celui qui finit, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Donc Jésus-Christ aussi, il montre que l'on ne considère pas uniquement ses intérêts, mais considère l'intérêt des autres. Jésus-Christ, oui, il avait notre intérêt, mais c'était aussi dans son intérêt. Il y avait les deux. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc Jésus-Christ, pour la joie qui lui était réservée, mépriser l'illuminé, souffrir la croix, etc. Et c'est la même chose auquel il nous demande. Quand il nous demande de prendre notre croix et de renoncer à soi-même, il sait que c'est pour démontrer de l'amour envers les autres, mais aussi, c'est aussi pour notre intérêt. C'est pour la joie de pouvoir avoir du fruit. C'est pour la joie de pouvoir être agréable à Dieu. C'est pour la joie. Paul et Silas, en prison, à minuit, quand ils chantaient les louanges du Seigneur après avoir été battus, il y avait une joie réelle de pouvoir avoir, d'avoir souffert pour Christ. Et cette joie-là, elle est petite comparée donc à la joie ensuite quand les couronnes seront données, quand la récompense au ciel sera donnée. Donc, Jésus-Christ est vraiment l'exemple. Et là, la semaine prochaine, on va s'attarder dans les versets 5 à 10. Mais là, on fait juste regarder les versets 1 à 4 et la manière que Christ est la personnification de tout ce que de ces principes-là qu'il vient de nous dire. C'est la manière de penser de Christ qui démontre vraiment l'exemple de s'il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, de rendre sa joie parfaite, ayant le même sentiment, le même amour, le même âme, et de ne rien faire par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'était la manière de penser de Jésus-Christ. Et donc, nous, on peut prendre encouragement dans la manière que Christ a marché devant nous. Ce que Paul, ici, par le Saint-Esprit, nous commande de faire, on n'est pas le premier à être commandé cela. Jésus-Christ a déjà passé par là. Et donc, nous pouvons prendre encouragement que Jésus-Christ sait qu'est-ce que ça veut dire de ne pas regarder la vie d'une manière, pas avec esprit de parti ou par vaine gloire. Christ voulait la gloire de son Père. Mais la gloire de son Père, Christ savait aussi que ce serait la sienne. Ésaïe 49, le Père, le serviteur par ultime de Dieu, c'est le Fils. Il dit, Dieu l'a honoré. Je suis honoré au lieu de l'Éternel, il dit dans Ésaïe 49, 6. Et donc, on voit bien que Jésus-Christ, il voyait non seulement ses intérêts lui, mais les intérêts de tout le monde. C'est pour ça que ce n'est pas un esprit de parti. C'est pour ça aussi que ce n'est pas par vaine gloire. C'est pour ça que l'humilité, il l'a regardé comme étant au-dessus. Et quand on pense à ça, Jésus-Christ a choisi la dernière place. Il a choisi de s'humilier pour voir les autres comme étant au-dessus de lui. Et c'est pour ça aussi que Dieu l'a souverainement élevé, comme on va voir la semaine prochaine. Et donc, ça peut nous encourager de voir qu'est-ce que ça veut dire que l'humilité vous fasse regarder. Eh bien, oui, choisissons la dernière place. Et on ne va pas y perdre par cela. Dieu promet que celui qui se met en dernier sera le premier. Et Jésus-Christ, certainement, a pris la dernière place. Il a vu tout le monde comme étant au-dessus de lui-même dans ce sens-là. Mais ensuite, ça valait la peine. Donc, Jésus-Christ nous montre ces principes-là. Et nous, on doit reformer notre manière de réfléchir, parce que naturellement, nos cœurs suivent une tendance, là, la vieille nature. En Jésus-Christ, maintenant, avec la nouvelle nature, avec le Saint-Esprit, Dieu veut qu'on réfléchisse différemment, et notre manière de réfléchir va faire qu'on va prendre encouragement. Ensuite, on va chercher à l'unité et à l'amour, et de ne rien faire par esprit de parti ou par vaine gloire, mais de vraiment s'humilier et par le fait même donc de considérer non seulement nos intérêts mais ceux des autres à l'exemple de Jésus-Christ. On va prier. Seigneur Dieu, merci pour ta parole, merci pour cette étude dans Philippiens 2, 1 à 5, Seigneur Dieu, et on te prie que tu puisses nous aider, pour ceux d'entre nous qui te connaissons, à vraiment prendre encouragement, peu importe les circonstances de vie difficiles dans lesquelles on pourrait être, qu'il y a toujours lieu à être encouragé, à te suivre et à marcher humblement devant toi et à considérer non seulement nos intérêts, mais aussi ceux des autres, à l'exemple de Jésus-Christ. Aide-nous de marcher avec amour, Seigneur Dieu. L'amour que tu nous as démontré, aide-nous de marcher avec cet amour pour les uns les autres, afin qu'on puisse te ressembler et être à la gloire de Dieu. Et merci donc pour ton plan, que ça en vaut la peine pour nous, autant que pour toi, Seigneur Dieu. Ton plan est un plan qui bénit ceux qui veulent bien te suivre, Seigneur Dieu, et merci pour ton plan merveilleux et être un Dieu d'amour, Seigneur Dieu. Merci pour cela. On te prie ces choses, au nom de Jésus. Amen. Ah, très bien. Bah, j'aurais pu en même temps prier pour s'il y avait des besoins spéciaux.